J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Isabelle Danel et Marcel Bluval, à l'occasion de leur venue à Tours pour la présentation du livre Bluval, pionnier de la télévision. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Marcel Bluval, comment vous avez vu venir cette petite lucarne ?
Alors, la première fois que j'ai vu la télé, j'avais 10 ans, 12 ans. C'était en 36, je vais vous dire mon âge. C'était en 36, je suis donc né en 25, c'était à l'exposition internationale de Paris de 36, et il y avait dans un pavillon français une image de télé, on voyait une nénette chanter devant une énorme caméra, et puis tout à côté il y avait un écran où on la voyait, et puis je m'en foutais, ça ne m'avait pas intéressé du tout. Et puis la guerre passe, et puis moi, je veux faire du cinéma, j'apprends mon cinéma à faire du cinéma en Amérique, je deviens cadreur, j'ai toujours voulu faire de la mise en scène, et puis je n'arrive pas à m'intégrer au cinéma parce que je n'avais pas les diplômes nécessaires, parce que j'avais interrompu mes études cinématographiques pour aller aux États-Unis apprendre mon métier. Donc je tournicotais autour du cinéma. Et un jour, mon patron me dit « Vous savez faire un plan de travail ?» Je dis « Oui, parce qu'à la télévision, ils ne savent pas. » J'ignorais le mot. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je savais qu'il existait une chose qui démarrait en Amérique, qui s'appelait la télévision, qui était la retransmission par des images et en direct, sans enregistrement, de ce qui se passait. Et d'un seul coup, j'apprends que ça existe en France. Or, ça existe depuis que les Allemands ont récupéré le matériel d'expérience que les PTT avaient développé rue de Grenelle. Et ils avaient installé ça rue Cognelgé. Et ils avaient fait un studio pour leurs soldats blessés en 43-44. D'un seul coup, la télévision française est née après la libération, nationale, parce que tout était national à ce moment-là. Et ils avaient besoin de fabriquer des émissions. Et au lieu de faire un plan de travail, je me suis retrouvé à faire la première émission enfantine filmée, puisque j'étais cadreur, de l'histoire de la télévision française. Et après quoi, il y avait 1000 postes en tout en France, 2500 en Europe, parce qu'il y avait l'Angleterre. Maintenant, il y en a pratiquement 1 milliard, quoi. C'était une expérience insensée. Mais pour moi qui voulais faire du cinéma, la télévision a été au début le moyen de gagner ma vie en fabriquant de la télé et en voulant faire du cinéma en réalité. Après quoi, je me suis incrusté et j'ai été un de ceux qui ont inventé la télé, quoi. La télé, elle se faisait de deux façons. D'une part, il y avait ce qu'on appelait le télécinéma, on pouvait retransmettre des films. Alors les films, ils se faisaient ailleurs. Et puis, il y avait deux grosses caméras de direct au départ de 400 lignes. Après quoi, le 400 lignes a disparu. Ça a été quatre caméras de 819 lignes avant de passer aux 625 lignes couleur. C'est de la technique, mais ceux qui savent comprendront. Et néanmoins, quoi qu'il en soit, il fallait, dans des studios fabriqués à la fin pour ça, faire des émissions. Des émissions qui sont devenues celles qu'on voit maintenant. Mais moi, mon secteur particulier, ça a été de faire des émissions dites dramatiques, c'est-à-dire faire des faux films, mais en direct et sans enregistrement, c'est-à-dire de répéter comme une pièce de théâtre, des pièces de théâtre pendant 3 semaines, mais en jouant un ballet furtif de place réaliste avec les caméras qui intervenaient, les quatre caméras. C'est nous qui faisions le montage dans une régie, et ça donnait une espèce de faux cinéma basé sur le dialogue et pas du tout sur le cinéma, sur l'image comme au cinéma, qui a eu son heure de gloire entre 1954 et 1960.
Dites, vous avez voulu être un hussard noir de la télévision. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Tout vient du Conseil national de la Résistance. Ça a l'air idiot, mais enfin, c'est comme ça. Le Conseil national de la Résistance, dans son programme qu'il a établi pendant la guerre encore, avait compris que les puissances d'argent dominaient la presse et dominaient la radio. et que le langage tenu était celui de l'argent et pas celui de la culture ou de l'information réelle. Donc ils avaient décidé qu'après la guerre, ce serait national et ce ne serait plus sous capitaux privés. Ce qui a eu lieu à la Libération même. La radio est immédiatement redevenue nationale et les radios privées ont été ce qui s'appelle des radios périphériques, c'est-à-dire Monte-Carlo ou Luxembourg, mais pas sur le territoire national. Et puis, y avait une extension de cette radio qui s'est appelée la télévision, qui a été de faire de l'image au lieu de faire simplement du son. Et elle est partie dans les mêmes intentions que la radio, c'est-à-dire le programme était triple, informer, divertir, cultiver. Et l'essentiel, c'était de cultiver à cette époque-là. Donc, on a été à quelques-uns. Le patron de la télévision d'alors, qui s'appelait Darcy, nous a dévolu la tâche, mais officiellement, de faire l'éducation théâtrale et littéraire d'un public qui n'avait jamais reçu la télé, qui ne savait pas ce que c'était, et qui était donc vierge, donc sensible. Et là, il y a eu une période où, en télévision en direct, celle dont on parlait tout à l'heure, on a appris Racine, Molière, Corneille, Balzac, Giraudoux, Beckett aussi, Adamoff, à un public totalement pas préparé pour le recevoir. Et ça a fait du bruit à ce moment-là. Maintenant, tout le monde reçoit tout, ça fait plus de bruit du tout. La télévision est devenue ce qu'elle est devenue et je suis pas pour, mais à l'époque, on était nantis en tant qu'instituteur de la République à travers la télévision d'un pouvoir exorbitant.
Ça laisse rêveur, une télé qui avait vocation d'éducation, Isabelle Danel.
Oui, la télévision s'est fabriquée autour de cette notion d'apprentissage, de passage, de savoir, et ça a totalement disparu. Et moi, ce qui m'a intéressée dans la rencontre avec Marcel, c'est justement de revenir à ces sources-là et de me rendre compte à quel point, même moi qui suis presque déjà trop jeune pour l'époque, c'est-à-dire que moi, je commence à regarder la télévision au début des années 70. Donc moi, je grandis avec le deuxième Vidocq, c'est aussi pour ça que j'ai envie de rencontrer Marcel Bluval, mais je ne connais pas vraiment cette période-là dont toi tu parles et où tu as, Marcel, apporté toutes ces choses. Et en même temps, moi, je suis encore d'une époque où, pour moi, la télévision est encore synonyme d'apprendre, de découvrir et de s'instruire, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je sais que des choses de la télévision m'ont amené vers des livres, vers des chanteurs, vers des poètes, et ça vient de la télévision. Donc ça me laisse d'autant plus rêveuse que pour Marcel, l'époque dont je parle moi, qui est l'époque de mon enfance, c'est déjà pour lui une époque révolue, mais il y avait encore ça. Malgré tout. Et moi, je l'ai vécu.
D'ailleurs, vous parlez d'auteur, Isabelle Danel. Quel était votre rapport, Marcel Bluval, avec les auteurs? Comment est-ce que vous travaillez avec eux?
Au départ, il n'y en avait pas, ils étaient tous morts. Alors, on était tranquilles. On n'avait rien. Ensuite, dans les années 57, c'est-à-dire 58, on nous a convoqués, Darcy nous a convoqués en disant, maintenant, les émissions du répertoire, ce qu'on appelle le répertoire théâtral, c'est terminé. Il faut faire autre chose. Il faut travailler avec des auteurs. Alors, il y en a qui étaient déjà dans la maison, comme Dumayet et des groupes qui travaillaient avec Barma. Mais brutalement, Lorenzi, il a été chercher de Castelot et Decaux pour faire La caméra explore le temps. Moi, j'ai été chercher Moussy, qui est devenu plus tard le scénariste de Truffaut. Et il a fallu scolter avec eux. Ça s'est passé très très bien. Dans des rapports de metteur en scène à auteur qui étaient copiés très exactement sur ceux du cinéma. Donc, les usages étant établis, il n'y avait pas de raison de les changer.
Vous pensez, tous les deux, que l'on puisse encore changer la télé de l'intérieur?
Là, je peux vous répondre tout de suite, parce que j'ai inventé un adage. Et il est cité souvent, mais je vous garantis qu'il est de moi. En télévision, le pire est toujours sûr. Donc, ça ne peut pas s'améliorer. Je ne pense pas.
Alors, que va devenir la télé? Est-ce que ça va devenir autre chose ou...
ça va forcément devenir autre chose, ça va bouger. Il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, trop de gens intelligents qui font la télé maintenant, même si c'est l'argent qui dicte tout ce qu'il faut faire. Il y a trop de gens intelligents pour que ce soit complètement nul. Mais il y a des choses intéressantes à la télévision tous les jours, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à placer un bout de message, mais difficilement, et de plus en plus difficilement à la télévision nationale française, dont je dis ici qu'elle est devenue n'importe quoi, malgré ces essais parcellaires qui réussiront à chaque fois à percer le mur, globalement, la télévision est un phénomène qui est devenu trop important, surtout politiquement et sociologiquement, pour qu'on le laisse aux mains des artistes. C'est pas possible.
Qu'en pensez-vous, Isabelle Danel ?
J'en pense à peu près la même chose. Je vois pas. Évidemment qu'il se passe encore des choses. J'ai un exemple très récent, un film qui s'appelle Chante ton bac d'abord, qui est un documentaire qui est produit par France 2, qui est passé le 19 octobre et qui est sorti le 21 octobre au cinéma. Donc c'est un téléfilm, comme on dit, et c'est un extraordinaire documentaire sur des jeunes gens à Boulogne-sur-Mer, et c'est une des choses les plus formidables que j'ai vues au cinéma, et c'est de la télévision. Donc ça existe. Je veux dire, il se passe évidemment encore des choses. Il y a des séries télévisées comme Les Revenants qui sont formidables, mais le problème, c'est que quand on dit Les Revenants, on ne peut pas en citer une deuxième. Il y a Les Revenants, effectivement, et Les Revenants, c'était il y a 3 ans, donc ça commence à... Voilà. Bien entendu que des choses se passeront toujours. La télévision ne va pas mourir. Il y a des problèmes partout, il y a des problèmes dans la presse aussi, et la presse ne va pas mourir, mais il va falloir muter, il va falloir réinventer des choses autrement, c'est sûr. Mais comme on nous dit que les gens ne veulent pas réfléchir, comme on nous dit que les gens ne lisent plus, qu'il faut du pain et des jeux, ce qui est une très très ancienne idée, c'est vrai que c'est très très inquiétant. Je pense que ce qui a fait la télé des débuts existera toujours malgré tout.
Alors, est-ce qu'il y a peut-être un espoir, puisque vous parliez de ces téléfilms, peut-être dans l'écriture documentaire? Pas du tout dans la télé-réalité, mais vraiment dans l'écriture documentaire.
Ah, mais ça, il faut dire que tout ce que je dis de négatif sur la télévision d'État à l'heure actuelle, d'État, enfin des chaînes publiques, etc., qui ne sont pas autre chose que des chaînes comme TF1 déguisées à l'heure actuelle, ne s'applique qu'aux fictions. Je veux dire que le documentaire de télévision en France, d'ailleurs, c'est même plus la peine de dire documentaire de télévision. Le documentaire de télévision est aussi bien un documentaire de cinéma à l'heure actuelle. C'est fait de la même façon. Le documentaire, l'école française de documentaire tient remarquablement le coup. Mais c'est pour une simple raison, c'est que ça coûte pas cher.
Et d'ailleurs, Chante ton bac d'abord, dont j'ai parlé, est en l'occurrence un documentaire. C'est un documentaire extrêmement particulier, puisque c'est un documentaire dans lequel les jeunes gens chantent, etc. Donc c'est extrêmement particulier, mais c'est un documentaire. Donc on est d'accord l'un et l'autre pour dire que c'est côté fiction, que parfois c'est un peu plus compliqué.
Parfois être extrêmement gentil. Non, mais quand je pense, c'est tout de même extraordinaire, qu'en 60, au moment exact où le nouveau patron de la télévision, Olivier, décide qu'on va faire du cinéma au lieu de faire du direct, le direct dont on a parlé tout à l'heure. Le service se constitue que les deux premières émissions faites, c'est le mariage de Figaro par mois avec Cassel Rochefort, qui est un bon film, je crois, et de l'autre côté, c'est les Perses d'Eschyle par Pratt, et que c'est un succès mondial. Je veux dire que je me souviens encore de mes figurants en costume Louis XV se baladant avec des gens en péplum dans les mêmes couloirs du même studio. C'est inimaginable maintenant. Quand on voit la liste de ce qui se tournait dans les années 63, 64, 65, c'est le même... La même année, il y a eu le Don Juan avec Piccoli que j'ai fait, Piccoli et Brasseur, et il y a eu Ubu Roy qui a fait Averti. Et quand Don Juan, c'est pas la chose la plus simple de la littérature française, et Ubu Roy encore moins. C'est invraisemblable. Ça n'arrivera plus. Mais pour le documentaire, il n'y a pas de problème. En fait, qu'est-ce qui différencie une fiction d'un documentaire ? La quantité de matière grise qu'il y a dans un documentaire par rapport au réel tourné est très très supérieure à la quantité de matière grise qu'il faut pour faire un film de fiction. Parce que de l'autre côté, il y a les acteurs, il y a les décors, il y a les machinistes, il y a les décorateurs, il y a tout un ensemble pour établir une fiction qui pèse plus que ce que la mise en scène peut peser et le scénariste. Tandis que dans un documentaire, le documentariste, il arrive avec une idée, il se confronte avec un réel qui ne coûte rien, et puis voilà.
Je vois Joël Afkin qui nous demande de vous faire parler sur Lina.
Ah, mais Lina... C'est... Alors, bon, là, j'ai une nouvelle à apporter, qui est celle-ci. Lina, c'est l'endroit, c'est un des seuls endroits au monde. La France a eu ce bonheur de conserver pratiquement tout ce qui a été fait à la télévision depuis le début. C'est dû au départ à une nénette qui était un simple cadre communiste de la télé, qui s'appelait Violette Franck, qui a décidé qu'il fallait garder le journal. Et puis après, on s'est mis à garder tout le reste. Et puis c'est devenu le service de conservation des émissions de l'ORTF. Et puis quand on a cassé la maison en 1974, il y a eu un service spécifique qui s'est appelé Lina, qui a eu comme mission de recueillir et de mettre en ordre et à la fin de numériser tout ce qui avait été fait et tout ce qui se faisait encore à la télévision nationale. Et ça donne des ressources absolument invraisemblables qui sont les plus grandes au monde d'émissions de télévision. Et là-dedans, bah, par exemple, moi j'ai différentes émissions à moi et d'autres copains qui sont en DVD de Lina. Et la nouvelle, c'est que pour la première fois vraisemblablement en Europe, un metteur en scène de télévision va avoir, entre guillemets, une intégrale de son œuvre mise sur le marché à travers Lina, et c'est moi. Alors, d'ici 3 ou 4 ans, j'aurai une cinquantaine d'émissions à moi. C'est un honneur énorme qu'on me fait. Moi, je suis très content. Hein. Je ne vais pas me plaindre. Mais maintenant que j'ai parlé de moi, parlons de Lina soi-même. Lina, c'est un organisme qui est en train de devenir très extraordinaire parce qu'il est à la pointe de tout ce qui est travail sur le passé audiovisuel de l'humanité, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que le répertoire français. C'est remarquable.
Et d'ailleurs, le livre que je viens d'écrire était impossible à faire sans Lina, parce qu'il y a des choses inestimables, y compris des interviews de Marcel de l'époque, y compris les dramatiques en direct qui donc normalement devraient être perdues, mais certaines ont été ce qu'on appelle kinescopées. Et donc la toute première dramatique en direct de Marcel Bluval, qui s'appelle « Sixième étage », par bonheur, elle existe. Je l'ai vu, en plus elle est formidable, mais ça c'est mon avis. Et donc ça c'est inestimable, c'est-à-dire que sans Lina, c'est impossible d'avoir la trace de la télévision dont on parle depuis le début de cet entretien, de ce que Marcel Bluval a pu faire dans sa vie au niveau émission, etc. Alors il y a des choses perdues, quelques-unes, mais globalement il y a énormément de choses visibles, et moi j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder ce que Lina a conservé, et ça c'est... essentiel.
Et dernière nouvelle, ça a été annoncé il y a 8 jours, il va y avoir un Netflix INA, c'est-à-dire qu'il va y avoir en VOD la disposition de 25 000 émissions, dont les miennes, d'ici très peu de temps, sur le réseau français Internet.
Eh bien, Isabelle Danel, Marcel Bluval, je vous remercie. Je rappelle que le livre Bluval, pionnier de la télévision, vient de sortir aux éditions Scrinéo. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.